Suite du chapitre 1er. Christophe fit de nouvelles démarches chez les marchands de musique. Elles ne servirent à rien. Il trouvait les Français peu accueillants, et leur agitation désordonnée l'ahurissait. Il avait l'impression d'une société anarchique dirigée par une bureaucratie rogue et despotique. Un soir qu'il errait sur les boulevards, découragé de l'inutilité de ses efforts, il vit Sylvain Cohn qui venait en sens inverse. Convaincu qu'ils étaient brouillés, il détourna les yeux et tâcha de passer inaperçu. Mais Cohn l'appela. « Eh, qu'étiez-vous devenu depuis ce fameux jour ? » demanda-t-il en riant. « Je voulais aller chez vous, mais je n'ai plus votre adresse. Tudieu, mon cher, je ne vous connaissais pas. Vous avez été épique. » Christophe le regarda surpris et un peu honteux. « Vous ne m'en voulez pas ? » « Vous en vouloir ? Quelle idée ! » Bien loin de lui en vouloir, il avait été réjoui de la façon dont Christophe avait étrillé Hecht. Il avait passé un bon moment. Il lui était fort indifférent que Hecht ou que Christophe eût raison. Il n'envisageait les gens que d'après le degré d'amusement qu'il pouvait avoir pour lui. Et il avait entrevu en Christophe une source de haut comique dont il se promettait bien de profiter. « Il fallait venir me voir, » continua-t-il. « Je vous attendais. Qu'est-ce que vous faites ce soir ? Vous allez venir dîner. Je ne vous lâche plus. Nous serons entre nous, quelques artistes qui nous réunissons une fois par quinzaine. Il faut que vous connaissiez ce monde-là. Venez, je vous présenterai. » Christophe s'excusait en vain sur sa tenue. Sylvain Cohn l'emmena. Ils entrèrent dans un restaurant des boulevards et montèrent au premier. Christophe se trouva au milieu d'une trentaine de jeunes gens, de 25 à 35 ans, qui discutait avec animation. Cohn le présenta comme venant de s'échapper des prisons d'Allemagne. Ils ne firent aucune attention à lui et n'interrompirent même pas leur discussion passionnée où Cohn, à peine arrivé, se jeta à la nage. Christophe, intimidé par cette société d'élite, se taisait, et il était tout oreille. Il ne réussissait pas à comprendre, ayant peine à suivre la volubilité de paroles françaises, quels grands intérêts artistiques étaient débattus. Il avait beau écouter, il ne distinguait que des mots comme « trust »,« accaparement », »,« baisse des prix », »,« chiffre des recettes », mêlés à ceux de « dignité de l'art » et de « droit de l'écrivain ». Il finit par s'apercevoir qu'il s'agissait d'affaires commerciales. Un certain nombre d'auteurs, appartenant, semblait-il, à une société financière, s'indignaient contre les tentatives qui étaient faites pour constituer une société rivale, disputant à la leur son monopole d'exploitation. La défection de quelques-uns de leurs associés, qui avaient trouvé avantageux de passer armes et bagages dans la maison rivale, les jetait dans des transports de fureur. Ils ne parlaient de guerre moins que de couper des têtes, déchéance, trahison, flétrissure, vendue. D'autres ne s'en prenaient pas aux vivants, ils en avaient aux morts, dont la copie gratuite obstruait le marché. L'œuvre de Musset venait de tomber dans le domaine public, et à ce qu'il paraissait, on l'achetait beaucoup trop. Aussi réclamait-il de l'État une protection énergique, frappant de lourdes taxes les chefs-d'œuvre du passé afin de s'opposer à leur diffusion à prix réduit, qu'il taxait aigrement de concurrence déloyale pour la marchandise des artistes d'à présent. Ils s'interrompirent les uns et les autres pour écouter les chiffres des recettes qu'avait faites telle et telle pièce dans la soirée d'hier. Tous s'extasièrent sur la chance d'un vétéran de l'art dramatique, célèbre dans les deux mondes, qu'ils méprisaient, mais qu'ils enviaient encore plus. Des rentes des auteurs, ils passèrent à celles des critiques. Ils s'entretinrent de celles que touchait, pure calomnie sans doute, un de leurs confrères connus pour chaque première représentation d'un théâtre des boulevards, afin d'en dire du bien. C'était un honnête homme. Une fois le marché conclu, il le tenait loyalement. Mais son grand art était, à ce qu'il prétendait, de faire de la pièce des éloges qui la fissent tomber le plus promptement possible, afin qu'il y eût des premières souvent. Le comte fit rire, mais n'étonna point. Au travers de tout cela, il disait de grands mots. Il parlait de poésie, d'art pour l'art. Dans ce bruit de gros sous, cela sonnait l'art pour l'argent. Et ces mœurs de Maquignon, nouvellement introduites dans la littérature française, scandalisaient Christophe. Comme il ne comprenait rien aux questions d'argent, il avait renoncé à suivre la discussion. Quand ils finirent par parler de littérature, ou plutôt de littérateur, Christophe dressa l'oreille en entendant le nom de Victor Hugo. Il s'agissait de savoir s'il avait été cocu. Ils discutèrent longuement sur les amours de Sainte-Beuve et de Madame Hugo. Après quoi, ils parlèrent des amants de George Sand et de leurs mérites respectifs. Après avoir tout exploré dans la maison des grands hommes, visité les placards, retourné les tiroirs et vidé les armoires, elle fouillait l'alcôve. La pose de Monsieur de Lauzun, à plat ventre sous le lit du roi et de la Montespan, était de celle qu'elle affectionnait dans son culte pour l'histoire et pour la vérité. Ils avaient tous en ce temps le culte de la vérité. Les convives de Christophe montrèrent qu'ils en étaient possédés. Rien ne les lassait dans cette recherche du vrai. Ils l'étendaient à l'art d'aujourd'hui comme à l'art du passé. Et ils analysèrent la vie privée de certains des plus notoires contemporains avec la même passion d'exactitude. C'était une chose curieuse qu'ils connussent les moindres détails de scènes qui d'habitude se passent de tout témoin. C'était à croire que les intéressés avaient été les premiers à fournir le public de renseignements exacts, par dévouement pour la vérité. Christophe, de plus en plus gêné, essayait de causer d'autres choses avec ses voisins, mais aucun ne s'occupait de lui. Ils avaient bien commencé par lui poser quelques vagues questions sur l'Allemagne, questions qui lui avaient révélé, à son grand étonnement, l'ignorance absolue, où étaient ces gens distingués qui semblaient instruits, des choses les plus élémentaires de leur métier, littérature et art, en dehors de Paris. Tout au plus, ils avaient entendu parler de quelques grands noms, Hauptmann, Sudermann, Liebermann, Strauss, David, Johann ou Richard, parmi lesquels ils s'aventuraient prudemment, de peur de faire quelque fâcheuse confusion. Au reste, s'ils avaient questionné Christophe, c'était par politesse, non par curiosité. Ils n'en avaient aucune. À peine s'ils prirent garde à ce qu'ils répondaient. Ils se hâtèrent de revenir aux questions parisiennes qui délectaient le reste de la table. Christophe, timidement, tenta de parler de musique. Aucun de ces littérateurs n'était musicien. Au fond, il regardait la musique comme un art inférieur. Mais son succès croissant, depuis quelques années, leur causait un secret dépit, et puisqu'elle était à la mode, il feignait de s'y intéresser. Il faisait grand bruit, surtout d'un récent opéra, dont il n'était pas loin de faire dater la musique, ou tout au moins l'ère nouvelle de la musique. Leur ignorance et leur snobisme s'accommodaient de cette idée qui les dispensait de connaître le reste. L'auteur de cet opéra, un Parisien, dont Christophe entendait le nom pour la première fois, avait, disaient certains, fait table rase de tout ce qui était avant lui, renouvelé de toutes pièces, recréé la musique. Christophe sursauta. Il ne demandait pas mieux que de croire au génie. Mais un génie de cette trempe, qui d'un coup anéantissait le passé, nom de nom, c'était un gaillard. Comment diable avait-il pu faire? Il demanda des explications. Les autres, qui eussent été bien embarrassés pour lui en donner, et que Christophe assommait, l'adressèrent au musicien de la bande, le grand critique musical Théophile Goujard, qui lui parla aussitôt de 7e et de 9e. Christophe le suivit sur ce terrain. Goujard savait la musique à peu près comme Sganarelle savait le latin. « Vous n'entendez point le latin ?»« Non. » Avec enthousiasme. « Cabricias arsituram catalamus singulariter bonus bonabonum. » Se trouvant en présence d'un homme qui entendait le latin, il se replia prudemment dans le maquis de l'esthétique. De ce refuge inexpugnable, il se mit à fusiller Beethoven, Wagner et l'art classique, qui n'était pas en cause. Mais en France, on ne peut louer un artiste sans lui offrir en holocauste tous ceux qui ne sont pas comme lui. Il proclamait l'avènement d'un art nouveau, foulant aux pieds les conventions du passé. Il parlait d'une langue musicale qui venait d'être découverte par le Christophe Colomb de la musique parisienne et qui supprimait totalement la langue des classiques en faisant une langue morte. Christophe, tout en réservant son opinion sur le génie novateur, dont il attendait d'avoir vu les œuvres, se sentait en défiance contre ce Baal musical à qui l'on sacrifiait la musique tout entière. Il était scandalisé d'entendre parler ainsi des maîtres, et il ne se rappelait pas que, naguère en Allemagne, il en avait dit bien d'autres. Lui qui se croyait là-bas un révolutionnaire en art, lui qui scandalisait par sa hardiesse de jugement et sa verte franchise, dès les premiers mots en France, il se sentait devenu conservateur. Il voulut discuter, et il eut le mauvais goût de le faire, non pas en homme bien élevé qui avance des arguments et ne les démontre pas, mais en homme du métier qui va chercher des faits précis et qui vous en assomme. il ne craignit pas d'entrer dans des explications techniques. Et sa voix, en discutant, montait à des intonations bien faites pour blesser les oreilles d'une société d'élite, où ses arguments et la chaleur qu'il mettait à les soutenir paraissaient également ridicules. Le critique se hâta de mettre fin par un mot dit d'esprit à une discussion fastidieuse où Christophe venait de s'apercevoir avec stupéfaction que son interlocuteur ne savait rien de ce dont il parlait. L'opinion était faite désormais sur l'allemand pédantesque et suranné, et sans qu'on la connût, sa musique fut jugée détestable. Mais l'attention de cette trentaine de jeunes gens, aux yeux railleurs, prompts à saisir les ridicules, avait été ramenée vers ce personnage bizarre qui agitait avec des mouvements gauches et violents des bras maigres aux mains énormes et qui dardait des regards furibonds en criant d'une voix suraiguë. Sylvain Cohn entreprit d'en donner la comédie à ses amis. La conversation s'était définitivement écartée de la littérature pour s'attacher aux femmes. À vrai dire, c'était les deux faces d'un même sujet, car dans leur littérature, il n'était guère question que de femmes. Et dans leurs femmes, que de littérature, tant elles étaient frottées de choses ou de gens de lettres. On parlait d'une honnête dame, connue dans le monde parisien, qui venait de faire épouser son amant à sa fille pour mieux se le réserver. Christophe s'agitait sur sa chaise et faisait une grimace de dégoût. Cohn s'en aperçut, et poussant du coude son voisin, il fit remarquer que le sujet semblait passionner l'Allemand, qui sans doute brûlait d'envie de connaître la dame. Christophe rougit, balbutia, puis finit par dire avec colère que de telles femmes il fallait les fouetter. Un éclat de rire homérique accueillit sa proposition. Et Sylvain Cohn, d'un ton flûté, protesta qu'on ne devait pas toucher une femme, même avec une fleur, etc., etc. Il était à Paris, le chevalier de l'amour. Christophe répondit qu'une femme de cette espèce n'était ni plus ni moins qu'une chienne, et qu'avec les chiens vicieux, il n'y avait qu'un remède, le fouet. On se récria bruyamment. Christophe dit que leur galanterie était de l'hypocrisie, que c'était toujours ceux qui respectaient le moins les femmes qui parlaient le plus de les respecter, et il s'indigna contre leur récit scandaleux. On lui opposa qu'il n'y avait là aucun scandale, rien que de naturel, et tous furent d'accord pour reconnaître en l'héroïne de l'histoire non seulement une femme charmante, mais la femme par excellence. L'Allemand s'exclama. Sylvain Cohn lui demanda sournoisement comment était donc la femme telle qu'il l'imaginait. Christophe sentit qu'on lui tendait un panneau, mais il y donna en plein, emporté par sa violence et par sa conviction. Il se mit à expliquer à ses parisiens gouailleurs ses idées sur l'amour. Il ne trouvait pas ses mots, il les cherchait pesamment, finissant par pêcher dans sa mémoire des expressions invraisemblables, disant des énormités qui faisaient la joie de l'auditoire et ne se troublant pas, avec un sérieux admirable, une insouciance touchante du ridicule. Car il ne pouvait pas ne pas voir qu'il se moquait de lui effrontément. À la fin, il s'empêtra dans une phrase, n'en put sortir, donna un coup de poing sur la table et se tut. On essaya de le relancer dans la discussion. Mais il fronça les sourcils et il ne broncha plus, les coudes sur la table, honteux et irrité. Il ne desserra plus les dents jusqu'à la fin du dîner, si ce n'est pour manger et pour boire. Il buvait énormément, au contraire de ses Français, qui touchaient à peine à leur vin. Son voisin l'y encourageait malignement et remplissait son verre, qu'il vidait sans y penser. Mais quoiqu'il ne fût pas habitué à ces excès de table, surtout après les semaines de privation qu'il venait de passer, il tint bon et ne donna pas le spectacle ridicule que les autres espéraient. Il restait absorbé. On ne faisait plus attention à lui, on pensait qu'il était assoupi par le vin. En outre de la fatigue qu'il avait à suivre une conversation française, il était las de n'entendre parler que de littérature, acteurs, auteurs, éditeurs, bavardages de coulisses ou d'alcôves littéraires. À cela se réduisait le monde. Au milieu de ces figures nouvelles et de ce bruit de paroles, il ne parvenait à fixer en lui ni une physionomie, ni une pensée. Ses yeux de myope, vagues et absorbés, faisait le tour de la table, lentement, se posant sur les gens et ne semblant pas les voir. Il les voyait pourtant mieux que quiconque, mais il n'en avait pas conscience. Son regard n'était point comme celui de ces Parisiens et de ces Juifs, qui happent à coups de bec des lambeaux d'objets, menu, et les dépècent en un instant. Il s'imprégnait longuement, en silence, des êtres comme une éponge, et il les emportait. Il lui semblait n'avoir rien vu et ne se souvenir de rien. Longtemps après, des heures, souvent des jours, lorsqu'il était seul et regardait en lui, il s'apercevait qu'il avait tout raflé. Pour l'instant, il n'avait l'air que d'un lourdeau d'allemand qui s'empiffrait de mangeaille, attentif seulement à ne pas perdre une goulée. Et il ne distinguait rien, sinon qu'en écoutant les convives s'interpeller par leur nom, il se demandait, avec une insistance d'ivrogne, pourquoi tant de ces Français avaient des noms étrangers, flamands, allemands, juifs, levantins, anglo ou hispano-américains. Il ne s'aperçut pas que l'on se levait de table. Il restait seul assis. Et il rêvait des collines rhénanes, des grands bois, des champs labourés, des prairies au bord de l'eau, de la vieille maman. Quelques convives causaient encore, debout à l'autre bout de la salle. La plupart étaient déjà partis. Enfin il se décida, se leva à son tour, et ne regardant personne, il alla chercher son manteau et son chapeau accrochés à l'entrée. Après les avoir mis, il partait sans dire bonsoir, quand, par l'entrebâillement d'une porte, il aperçut dans un cabinet voisin un objet qui le fascina, un piano. Il y avait plusieurs semaines qu'il n'avait touché à un instrument de musique. Il entra, caressa amoureusement les touches, s'assit, et, son chapeau sur la tête, son manteau sur le dos, il commença de jouer. Il avait parfaitement oublié où il était. Il ne remarqua point que deux personnes se glissaient dans la pièce pour l'entendre. L'une était Sylvain Cohn, passionné de musique, Dieu sait pourquoi, car il n'y comprenait rien, et il aimait autant la mauvaise que la bonne. L'autre était le critique musical, Théophile Goujard. Celui-là, c'était plus simple, ne comprenait ni n'aimait la musique. Mais cela ne le gênait point pour en parler. Au contraire, il n'y a pas d'esprit plus libre que ceux qui ne savent point ce dont ils parlent, car il leur est indifférent d'en dire une chose plutôt qu'une autre. Théophile Goujard était un gros homme, râblé et musclé, la barbe noire, de lourds accroche-cœurs sur le front, un front qui se fronçait de grosses rides inexpressives, une figure mal équarrie, comme grossièrement sculptée dans du bois, les bras courts, les jambes courtes, une grasse poitrine, une sorte de marchand de bois ou de portefaix auvergnat. Il avait des manières vulgaires et le verbe arrogant. Il était entré dans la musique par la politique, qui, dans ce temps-là, en France, était le seul moyen d'arriver. Il s'était attaché à la fortune d'un ministre de sa province, dont il s'était découvert vaguement parent ou allié, quelque fils du bâtard de son apothicaire. Les ministres ne sont pas éternels. Quand le sien avait paru près de sombrer, Théophile Goujard avait abandonné le bateau, après en avoir emporté tout ce qu'il pouvait prendre, notamment des décorations, car il aimait la gloire. Là de la politique, où depuis quelque temps il commençait à recevoir, pour le compte de son patron et même pour le sien, quelques coups assez rudes, il avait cherché, à l'abri des orages, une situation de tout repos où il pourrait ennuyer les autres sans être ennuyé lui-même. La critique était tout indiquée. Justement, une place de critique musicale était vacante dans un des grands journaux parisiens. Le titulaire, un jeune compositeur de talent, avait été congédié, parce qu'il s'obstinait à dire ce qu'il pensait des œuvres et des auteurs. Goujard ne s'était jamais occupé de musique, et il ne savait rien. On le choisit sans hésiter. On en avait assez des gens compétents. Au moins, avec Goujard, on n'avait rien à craindre. Il n'attachait pas une importance ridicule à ses opinions, toujours aux ordres de la direction, et prêt à en faire passer les éreintements et les réclames. Qu'il ne fût pas musicien, c'était une considération secondaire. La musique, chacun en sait assez en France. Goujard avait vite acquis la science indispensable. Le moyen était simple. Il s'agissait, au concert, de prendre pour voisin quelques bons musiciens, si possible un compositeur, et de lui faire dire ce qu'il pensait des œuvres qu'on jouait. Au bout de quelques mois de cet apprentissage, on connaissait le métier. L'oison pouvait voler. À la vérité, ce n'était pas comme un aigle. Et Dieu sait les sottises que Goujard déposait dans sa feuille avec autorité. Il écoutait et lisait à tort et à travers, embrouillait tout dans sa lourde cervelle, et faisait arrogamment la leçon aux autres. Il écrivait dans un style prétentieux, bariolé de calembours et lardé de pédantisme agressif. Il avait une mentalité de pion de collège. Parfois, de loin en loin, il s'était attiré de cruelles ripostes. Dans ces cas-là, il faisait le mort, et se gardait bien de répondre. Il était à la fois un gros finaud et un grossier personnage, insolent ou plat selon les circonstances. Il faisait des courbettes au cher maître, pourvu d'une situation ou d'une gloire officielle. C'était le seul moyen qu'il eût d'évaluer sûrement le mérite musical. Il traitait dédaigneusement les autres et exploitait les faméliques. Ce n'était pas une bête. Malgré l'autorité acquise et sa réputation, dans son fort intérieur, il savait qu'il ne savait rien en musique, et il avait conscience que Christophe s'y connaissait très bien. Il se serait gardé de le dire, mais cela lui en imposait. Et maintenant, il écoutait Christophe qui jouait. Et il s'évertuait à comprendre, l'air absorbé, profond, ne pensant à rien. Il ne voyait goutte dans ce brouillard de notes, et il hochait la tête en connaisseur, mesurant ses signes d'approbation sur les clignements d'yeux de Sylvain Cohn, qui avait grand-peine à rester tranquille. Enfin, Christophe, dont la conscience émergeait peu à peu des fumées du vin et de la musique, se rendit compte vaguement de la pantomime qui avait lieu derrière son dos. Et se tournant, il vit les deux amateurs. Ils se jetèrent aussitôt sur lui et lui secouèrent les mains avec énergie. Sylvain Cohn, glapissant qu'il avait joué comme un dieu, Goujard affirmant d'un air doctoral qu'il avait la main gauche de Rubinstein et la main droite de Paderewski, à moins que ce ne fût le contraire. Ils s'accordaient tous deux à déclarer qu'un tel talent ne devrait pas rester sous le boisseau, et ils s'engagèrent à le mettre en valeur. Pour commencer, tous deux comptaient bien en tirer pour eux-mêmes tout l'honneur et le profit possible. Dès le lendemain, Sylvain Cohn invita Christophe à venir chez lui, mettant aimablement à sa disposition l'excellent piano qu'il avait et dont il ne faisait rien. Christophe, qui mourait de musique rentrée, accepta, sans se faire prier, et il usa de l'invitation. Les premiers soirs, tout alla bien. Christophe était tout au bonheur de jouer. Et Sylvain Cohn mettait une certaine discrétion à l'en laisser jouir en paix. Lui-même en jouissait sincèrement. Par un de ces phénomènes bizarres, que chacun peut observer, cet homme qui n'était pas musicien, qui n'était pas artiste, qui avait le cœur le plus sec, le plus dénué de toute poésie, de toute bonté profonde, était pris sensuellement par ces musiques qu'il ne comprenait pas, mais d'où se dégageait pour lui une force de volupté. Malheureusement, il ne pouvait pas se taire. Il fallait qu'il parlât tout haut pendant que Christophe jouait. Il soulignait la musique d'exclamations emphatiques comme un snob au concert, ou bien il faisait des réflexions saugrenues. Alors Christophe tapait le piano et déclarait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Cohn s'évertuait à se taire, mais c'était plus fort que lui. Il se remettait aussitôt à ricaner, gémir, siffloter, tapoter, fredonner, imiter les instruments. Et quand le morceau était fini, il eût crevé s'il n'avait fait part à Christophe de ses ineptes réflexions. Il était un curieux mélange de sentimentalité germanique, de blague parisienne et de fatuité qui lui appartenaient en propre. Tantôt c'étaient des jugements apprêtés et précieux, tantôt des comparaisons extravagantes, tantôt des indécences, des obscénités, insanités, des coxygrues. Pour louer Beethoven, il y voyait des polissonneries, une sensualité lubrique. Il trouvait un élégant badinage dans de sombres pensées. Le quatuor en ut dièse mineure lui semblait aimablement crâne. Le sublime adagio de la 9e symphonie lui rappelait Chérubin. Après les trois coups qui ouvrent la symphonie en ut mineure, il criait « N'entrez pas, il y a quelqu'un !» Il admirait la bataille de Heldenleben parce qu'il prétendait y reconnaître le ronflement d'une automobile. Et partout, des images pour expliquer les morceaux et des images puériles, incongrues. On se demandait comment il pouvait aimer la musique. Cependant, il l'aimait. À certaines de ces pages, qu'il comprenait de la façon la plus cocasse, les larmes lui venaient aux yeux. Mais après avoir été ému par une scène de Wagner, il tapotait sur le piano un galop d'Offenbach, ou chantonnait une scie de café-concert après l'ode à la joie. Alors Christophe bondissait et il hurlait de colère. Mais le pire n'était pas quand Sylvain Cohn était absurde. C'était quand il voulait dire des choses profondes et délicates, quand il voulait poser aux yeux de Christophe, quand c'était Hamilton et non Sylvain Cohn qui parlait. Dans ces moments-là, Christophe dardait sur lui un regard chargé de haine, et il l'écrasait sous des paroles froidement injurieuses qui blessaient l'amour-propre de Hamilton. Les séances de piano se terminaient fréquemment par des brouilles. Mais le lendemain, Cohn avait oublié, et Christophe, qui avait remords de sa violence, s'obligeait à revenir. Tout cela n'eût été rien si Cohn avait pu se retenir d'inviter des amis à entendre Christophe. Mais il avait besoin de faire montre de son musicien. La première fois que Christophe trouva chez Cohn trois ou quatre petits juifs et la maîtresse de Cohn, une grande fille enfarinée, bête comme un panier, qui répétait des calembours ineptes et parlait de ce qu'elle avait mangé, mais qui se croyait musicienne parce qu'elle étalait ses cuisses chaque soir dans une revue des variétés, Christophe fit grise mine. La deuxième fois, il déclara tout net à Sylvain Cohn qu'il ne jouerait plus chez lui. Sylvain Cohn jura ses grands dieux qu'il n'inviterait plus personne. Mais il continua en cachette, installant ses invités dans une pièce voisine. Naturellement, Christophe finit par s'en apercevoir. Il s'en alla, furieux, et cette fois il ne revint plus. Toutefois, il devait ménager Cohn, qui le présentait dans les familles cosmopolites et lui trouvait des leçons. De son côté, Théophile Goujard vint, quelques jours après, chercher Christophe dans son taudis. Il ne se montra pas offusqué de le trouver si mal logé. Au contraire, il fut charmant. Il lui dit « J'ai pensé que cela vous ferait plaisir d'entendre un peu de musique, et comme j'ai mes entrées partout, je suis venu vous prendre. » Christophe fut ravi. Il trouva l'attention délicate et remercia avec effusion. Goujard était tout différent de ce qu'il l'avait vu le premier soir. Seul à seul avec lui, il était sans morgue, bon enfant, timide, cherchant à s'instruire. Ce n'était que lorsqu'il se trouvait avec d'autres qu'il reprenait instantanément son air supérieur et son ton cassant. D'ailleurs, son désir de s'instruire avait toujours un caractère pratique. Il n'était pas curieux de ce qui n'était pas d'actualité. Pour le moment, il voulait savoir ce que Christophe pensait d'une partition qu'il avait reçue et dont il eût été bien embarrassé pour rendre compte, car il lisait à peine ses notes. Ils allèrent ensemble à un concert symphonique. L'entrée en était commune avec un music hall. Par un boyau sinueux, on accédait à une salle sans dégagement. L'atmosphère était étouffante, les sièges trop étroits, entassés. Une partie du public se tenait debout, bloquant toutes les issues. L'inconfortable français. Un homme qui semblait rongé d'un incurable ennui dirigeait au galop une symphonie de Beethoven, comme s'il avait hâte que ce fût fini. Les flonflons d'une danse du ventre venaient du café-concert voisin se mêler à la marche funèbre de l'héroïque. Le public arrivait toujours, s'installait, se lorgnait. Quand il eut fini d'arriver, il commença de partir. Christophe tendait les forces de son cerveau pour suivre le fil de l'œuvre à travers cette foire. Et au prix d'efforts énergiques, il parvenait à y avoir du plaisir, car l'orchestre était habile et Christophe était sevré depuis longtemps de musique symphonique. Quand Goujard le prit par le bras et lui dit au milieu du concert « Maintenant, nous partons, nous allons à un autre concert. » Christophe fronça le sourcil, mais il ne répliqua point et il suivit son guide. Ils traversèrent la moitié de Paris. Ils arrivèrent dans une autre salle qui sentait l'écurie et où, à d'autres heures, on jouait des féeries et des pièces populaires. La musique à Paris est comme ces ouvriers pauvres qui se mettent à deux pour louer un logement. Lorsque l'un sort du lit, l'autre entre dans les draps chauds. Point d'air, naturellement. Depuis le roi Louis XIV, les Français le jugent malsain. Et l'hygiène des théâtres, comme autrefois celle de Versailles, est qu'on n'y respire point. Un noble vieillard, avec des gestes de dompteur, déchaînait un acte de Wagner. La malheureuse bête, l'acte, ressemblait à ces lions de ménagerie, ahuris d'affronter les feux de la rampe, et qu'il faut cravacher pour les faire ressouvenir qu'ils sont pourtant des lions. De grosses pharisiennes et de petites bécasses assistaient à cette exhibition, le sourire aux lèvres. Après que le lion eut fait le beau, que le dompteur eut salué, et qu'ils eurent été récompensés tous deux par le tapage du public, Goujard eut la prétention d'emmener encore Christophe à un troisième concert. Mais cette fois, Christophe fixa ses mains au bras de son fauteuil, et il déclara qu'il ne bougerait plus. Il en avait assez de courir d'un concert à l'autre, attrapant au passage ici des miettes de symphonie, là des bribes de concerto. En vain, Goujard essayait de lui expliquer que la critique musicale à Paris était un métier où il était plus essentiel de voir que d'écouter. Christophe protesta que la musique n'était pas faite pour être entendue en fiacre et qu'elle voulait du recueillement. Ce mélange de concerts lui tournait le cœur. Un seul lui suffisait à la fois. Il était bien surpris de cette incontinence musicale. Il croyait, comme la plupart des Allemands, que la musique tenait en France peu de place. Et il s'attendait à ce qu'on la lui servît par petites rations, mais très soignées. On lui offrit, pour commencer, 15 concerts en 7 jours. Il y en avait pour tous les soirs de la semaine, et souvent 2 ou 3 par soir, à la même heure, dans des quartiers différents. Pour le dimanche, il y en avait 4, à la même heure, toujours. Christophe admirait cet appétit de musique. Il n'était pas moins frappé de l'abondance des programmes. Il pensait jusque-là que ses compatriotes avaient la spécialité de ces goinfreries de sons qui lui avaient plus d'une fois répugné en Allemagne. Il constata que les Parisiens leur eussent rendu les points à table. On leur faisait bonne mesure, 2 symphonies, 1 concerto, 1 ou 2 ouvertures, 1 acte de drame lyrique. Et de toute provenance, allemand, russe, scandinave, français, bière, champagne, orgeat et vin. Ils avalaient tout sans broncher. Christophe s'émerveillait que les oiselles de Paris eussent un aussi vaste estomac. Cela ne les gênait guère. Le tonneau des Danaïdes. Il ne restait rien au fond. Christophe ne tarda pas à remarquer que cette quantité de musique se réduisait en somme à fort peu de choses. Il trouvait à tous les concerts les mêmes figures et les mêmes morceaux. Ces programmes copieux ne sortaient jamais du même cercle. Presque rien avant Beethoven. Presque rien après Wagner. Et dans l'intervalle, que de lacunes. Il semblait que la musique se réduisit à 5 ou 6 noms célèbres en Allemagne, à 3 ou 4 en France, et, depuis l'alliance franco-russe, à 12 de morceaux moscovites. Rien des anciens français. Rien des grands italiens. Rien des colosses allemands du XVIIe et du XVIIIe siècle. Rien de la musique allemande contemporaine, à l'exception du seul Richard Strauss, qui, plus avisé que les autres, venait lui-même chaque année imposer ses œuvres nouvelles au public parisien. Rien de la musique belge. Rien de la musique tchèque. Mais le plus étonnant, presque rien de la musique française contemporaine. Cependant, tout le monde en parlait, en termes mystérieux, comme d'une chose qui révolutionnait le monde. Christophe était à l'affût des occasions d'en entendre. Il avait une large curiosité sans parti pris. Il brûlait du désir de connaître du nouveau, d'admirer des œuvres de génie. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à en entendre, car il ne comptait pas 3 ou 4 petits morceaux, assez finement écrits, mais froids et sagement compliqués, auxquels il n'avait pas prêté grande attention. En attendant de se faire une opinion par lui-même, Christophe chercha à se renseigner auprès de la critique musicale. Ce n'était pas aisé. Elle ressemblait à la cour du roi Péto. Non seulement les différentes feuilles musicales se contredisaient l'une l'autre à cœur joie, mais chacune d'elles se contredisait elle-même d'un article à l'autre. Il y aurait eu de quoi en perdre la tête si l'on avait tout lu. Heureusement, chaque rédacteur ne lisait que ses propres articles, et le public n'en lisait aucun. Mais Christophe, qui voulait se faire une idée exacte des musiciens français, s'acharnait à n'en rien passer, et il admirait le calme guilleret de ce peuple qui se mouvait dans la contradiction comme un poisson dans l'eau. Au milieu de ces divergences d'opinion, une chose le frappa, l'air doctoral des critiques. Qui donc avait prétendu que les Français étaient d'aimables fantaisistes qui ne croyaient à rien? Ce que voyait Christophe était enharnaché de plus de science musicale, même quand il ne savait rien, que toute la critique d'Outre-Rhin. En ce temps-là, les critiques musicaux français s'étaient décidés à apprendre la musique. Il y en avait même quelques-uns qui la savaient. C'étaient des originaux. Ils s'étaient donné la peine de réfléchir sur leur art et de penser par eux-mêmes. Cela, naturellement, n'était pas très connu. Ils restaient cantonnés dans leurs petites revues. À 1 ou 2 exceptions près, les journaux n'étaient pas pour eux. Braves gens, intelligents, intéressants, que leur isolement inclinait parfois au paradoxe, et l'habitude de causer tout seul à l'intolérance de jugement et au bavardage. Les autres avaient appris hâtivement les rudiments de l'harmonie, et ils restaient ébahis devant leur science récente. Ainsi que M. Jourdain, lorsqu'il vient d'apprendre les règles de la grammaire, ils étaient dans l'émerveillement. D-A-da, F-A-Fa. R-A-Ra. Ah, que cela est beau. Ah, la belle chose que de savoir quelque chose. Il ne parlait plus que de sujet et de contre-sujet, d'harmonique et de son résultant, d'enchaînement et de neuvième et de succession de tierces majeures. Quand ils avaient nommé les suites d'harmonie qui se déroulaient dans une page, ils s'épongeaient le front avec fierté. Ils croyaient avoir expliqué le morceau. Ils croyaient presque l'avoir écrit. À vrai dire, ils n'avaient fait que le répéter, en termes d'école, comme un collégien qui fait l'analyse grammaticale d'une page de Cicéron. Mais il était si difficile au meilleur de concevoir la musique comme une langue naturelle de l'âme que lorsqu'il n'en faisait pas une succursale de la peinture, il la logeait dans les faubourgs de la science et il la réduisait à des problèmes de construction harmonique. Des gens aussi savants devaient naturellement en remontrer aux musiciens passés. Ils trouvaient des fautes dans Beethoven, donnaient de la férule à Wagner. Pour Berlioz et pour Gluck, ils en faisaient des gorges chaudes. Rien n'existait pour eux, à cette heure de la mode, que Jean-Sébastien Bach et Claude Debussy. Encore le premier, dont on avait beaucoup abusé dans ces dernières années, commençait-il à paraître pédant, perruque et pour tout dire un peu coco. Les gens très distingués prenaient mystérieusement Rameau et Couperin le Grand. Entre ces savants hommes, des luttes épiques s'élevaient. Ils étaient tous musiciens, mais comme ils ne l'étaient pas tous de la même manière, ils prétendaient chacun que sa manière était la bonne, et ils criaient raca sur celle de leurs confrères. Ils se traitaient mutuellement de faux littérateurs et de faux savants. Ils se lançaient à la tête les mots d'idéalisme et de matérialisme, de symbolisme et de vérisme, de subjectivisme et d'objectivisme. Christophe se disait que ce n'était pas la peine d'être venu d'Allemagne pour trouver à Paris des querelles d'Allemands. Au lieu de savoir gré à la bonne musique de leur offrir à tous tant de diverses façons d'en jouir, ils ne toléraient pas d'autre façon que la leur. Et à nouveau Lutrin, une guerre acharnée, divisait en ce moment les musiciens en deux armées, celle du contrepoint et celle de l'harmonie. Comme les gros boutiens et les petits boutiens, les uns soutenaient âprement que la musique devait se lire horizontalement et les autres qu'elle devait se lire verticalement. Ceux-ci ne voulaient entendre parler que d'accords savoureux, d'enchaînements fondants, d'harmonies succulentes. Ils parlaient de musique comme d'une boutique de pâtisserie. Ceux-là n'admettaient point qu'on s'occupât de l'oreille, cette guenille. La musique était pour eux un discours, une assemblée parlementaire, où les orateurs parlaient tous à la fois, sans s'occuper de leurs voisins, jusqu'à ce qu'ils eussent fini, tant pis si on ne les entendait pas. On pourrait lire leur discours le lendemain au journal officiel. La musique était faite pour être lue et non pour être entendue. Quand Christophe ouït parler pour la première fois de cette querelle entre les horizontalistes et les verticalistes, il pensa qu'ils étaient tous fous. Sommé de prendre parti entre l'armée de la succession et l'armée de la superposition, il leur répondit par sa devise habituelle, qui n'était pas tout à fait celle de Sosie. « Messieurs, ennemis de tout le monde !» Et comme ils insistaient, demandant « De l'harmonie ou du contrepoint, qu'est-ce qui importe le plus en musique ?» Il répondit « La musique, montrez-moi donc la vôtre !» Sur leur musique, ils étaient tous d'accord. Ces batailleurs intrépides qui se gourmaient à qui mieux, quand ils ne gourmaient point quelques vieux morts illustres, dont la célébrité avait trop duré, se trouvaient réconciliés en une passion commune, l'ardeur de leur patriotisme musical. La France était pour eux le grand peuple musical. Ils proclamaient sur tous les tons la déchéance de l'Allemagne. Christophe n'en était pas blessé. Il l'avait tellement décrété lui-même qu'il ne pouvait de bonne foi contredire à ce jugement. Mais la suprématie de la musique française l'étonnait un peu. À vrai dire, il en voyait peu de traces dans le passé. Les musiciens français affirmaient cependant que leur art avait été admirable en des temps très anciens. Pour mieux glorifier la musique française, ils commençaient par ridiculiser toutes les gloires françaises du siècle dernier, à part celle d'un seul maître très bon, très pur, qui était belge. Cette exécution faite, on n'en était plus à l'aise pour admirer des maîtres archaïques qui tous étaient oubliés et dont certains étaient restés jusqu'à ce jour totalement inconnus. Au rebours des écoles laïques de France, qui font dater le monde de la Révolution française, les musiciens regardaient celle-ci comme une chaîne de montagnes qu'il fallait gravir pour contempler derrière l'âge d'or de la musique, l'eldorado de l'art. Après une longue éclipse, l'âge d'or allait renaître. La dure muraille s'effondrait. Un magicien des sons faisait refleurir un printemps merveilleux. Le vieux arbre de musique revêtait un jeune plumage tendre. Dans le parterre d'harmonie, 1000 fleurs ouvraient leurs yeux riants à l'aurore nouvelle. On entendait bruire les sources argentines, le chant frais des ruisseaux. C'était une idylle. Christophe était ravi, mais quand il regardait les affiches des théâtres parisiens, il y voyait toujours les noms de Meyerbeer, de Gounod, de Massenet, voire de Mascagni et de Léon Cavallo, qu'il ne connaissait que trop. Et il demandait à ses amis si cette musique impudente, ces pâmoisons de filles, ces fleurs artificielles, cette boutique de parfumeurs, étaient les jardins d'Armide qu'il lui avait promis. Il se récriait d'un air offensé. C'était, à les en croire, les derniers vestiges d'un âge moribond. Personne n'y songeait plus. À la vérité, Cavalleria Rusticana trônait à l'opéra comique et Pagliacci à l'opéra. Massenet et Gounod faisaient le maximum, et la trinité musicale, Mignon, les Huguenots et Faust, avait gaillardement passé le cap de la 1000e représentation. Mais c'était là des accidents sans importance. Il n'y avait qu'à ne pas les voir. Quand un fait impertinent dérange une théorie, rien n'est plus simple que de le nier. Les critiques français niaient ces œuvres effrontées, ils niaient le public qui les applaudissait. Et il n'aurait pas fallu les pousser beaucoup pour leur faire nier le théâtre musical tout entier. Le théâtre musical était pour eux un genre littéraire, donc impur. Comme ils étaient tous littérateurs, ils se défendaient tous de l'être. Toute musique expressive, descriptive, suggestive, en un mot, toute musique qui voulait dire quelque chose, était taxée d'impur. Dans chaque Français, il y a un Robespierre. Il faut toujours qu'il décapite quelqu'un ou quelque chose avant de le rendre pur. Les grands critiques français n'admettaient que la musique pure et laissaient l'autre à la canaille. Christophe se sentait mortifié en songeant combien son goût était canaille. Ce qui le consolait un peu, c'était de voir que tous ces musiciens qui méprisaient le théâtre écrivaient pour le théâtre. Il n'en était pas un qui ne composât des opéras. Mais c'était là sans doute encore un accident sans importance. Il fallait les juger comme ils le voulaient être, d'après leur musique pure. Christophe chercha leur musique pure. Théophile Goujard le conduisait au concert d'une société qui se consacrait à l'art national. Là, les gloires nouvelles étaient élaborées et couvées longuement. C'était un grand cénacle, une petite église à plusieurs chapelles. Chaque chapelle avait son saint, chaque saint avait ses clients, qui médisaient volontiers du saint de la chapelle voisine. Entre tous ces saints, Christophe ne fit d'abord pas grande différence. Comme c'était naturel, avec ses habitudes d'un art tout autre, il ne comprenait rien à cette musique nouvelle, et comprenait d'autant moins qu'il croyait la comprendre. Tout lui semblait baigné dans un demi-jour perpétuel. On eût dit une grisaille où les lignes s'estompaient, s'enfonçaient, émergeaient par moments, s'effaçaient de nouveau. Parmi ces lignes, il y avait des dessins raides, rêches et secs, tracés comme à l'équerre, qui se repliaient avec des angles pointus, comme le coude d'une femme maigre. Il y en avait d'onduleux, qui se tortillaient comme des fumées de cigares. Mais tous étaient dans le gris. N'y avait-il donc plus de soleil en France ? Christophe, qui depuis son arrivée à Paris n'avait eu que la pluie et le brouillard, était porté à le croire. Mais c'est le rôle de l'artiste de créer le soleil lorsqu'il n'y en a pas. Ceux-ci allumaient bien leur petite lanterne. Seulement, elle était comme celle des vers luisants. Elle ne réchauffait rien et éclairait à peine. Les titres des œuvres changeaient. Il était parfois question de printemps, de midi, d'amour, de joie de vivre, de course à travers les champs. La musique, elle, ne changeait point. Elle était uniformément douce, pâle, engourdie, anémique, étiolée. C'était alors la mode en France, parmi les délicats, de parler bas en musique. Et l'on avait raison, car dès qu'on parlait haut, c'était pour crier, pas de milieu. On avait le choix qu'entre un assoupissement distingué et des déclamations de mélos. Christophe, secouant la torpeur qui commençait à le gagner, regarda son programme, et il fut surpris de voir que ces petits brouillards qui passaient dans le ciel gris avaient la prétention de représenter des sujets précis. Car, en dépit des théories, Cette musique pure était presque toujours de la musique à programme, ou tout au moins à sujet. Ils avaient beau médire de la littérature, il leur fallait une béquille littéraire sur laquelle s'appuyer. Étrange béquille. Christophe remarqua la puérilité bizarre des sujets qu'il s'astreignait à peindre. C'étaient des vergers, des potagers, des poulaillers, des ménageries musicales, de vrais jardins et plantes. Certains transposaient pour orchestre ou pour piano les tableaux du Louvre ou les fresques de l'opéra. Ils mettaient en musique Gyp, Baudry et Paul Potter. Des notes explicatives aidaient à reconnaître ici la pomme de Paris, là l'auberge hollandaise ou la croupe d'un cheval blanc. Cela semblait à Christophe des jeux de vieux enfants qui ne s'intéressaient qu'à des images et qui, ne sachant pas dessiner, barbouillaient leur cahier de tout ce qui leur passait par la tête, inscrivant naïvement au-dessous, en grosses lettres, que c'était le portrait d'une maison ou d'un arbre. À côté de ces imagiers aveugles qui voyaient avec leurs oreilles, il y avait aussi des philosophes. Ils traitaient en musique des problèmes métaphysiques. Leur symphonie était la lutte de principes abstraits, l'exposé d'un symbole ou d'une religion. Les mêmes, dans leurs opéras, abordaient l'étude des questions juridiques et sociales de leur temps, la déclaration des droits de la femme et du citoyen. On ne désespérait pas de mettre sur le chantier la question du divorce, la recherche de la paternité et la séparation de l'Église et de l'État. Ils se divisaient en deux camps, les symbolistes laïcs et les symbolistes cléricaux. Ils faisaient chanter les chiffonniers philosophes, des grisettes sociologues, des boulangers prophétiques, des pêcheurs apostoliques. Goethe parlait déjà des artistes de son époque qui reproduisaient les idées de Kant dans les tableaux allégoriques. Ceux du temps de Christophe mettaient la sociologie en double croche. Zola, Nietzsche, Maeterlinck, Barrès, Jaurès, Mendès, l'Évangile et le Moulin Rouge alimentaient la citerne, où les auteurs d'opéra et de symphonie venaient puiser leurs pensées. Nombre d'entre eux, grisés par l'exemple de Wagner, s'étaient écriés « Et moi aussi je suis poète !» Et ils alignaient avec confiance sous leur ligne de musique des bouts rimés ou non rimés, en style d'école primaire ou de feuilleton décadent. Tous ces penseurs et ces poètes étaient des partisans de la musique pure, mais ils aimaient mieux en parler qu'en écrire. Il leur arrivait pourtant quelquefois d'en écrire. C'était alors de la musique qui ne voulait rien dire. Le malheur était qu'elle y réussissait souvent. Elle ne disait rien du tout, du moins à Christophe. Il est vrai qu'il n'en avait pas la clé. Pour comprendre une musique étrangère, on doit se donner la peine d'en apprendre la langue, et ne pas croire qu'on la sait d'avance. Christophe le croyait comme tout bon Allemand. Il était excusable. Beaucoup de Français eux-mêmes ne la comprenaient pas mieux que lui. Comme ces Allemands du temps du roi Louis XIV, qui s'évertuaient à parler français et qui avaient fini par oublier leur langue, les musiciens français du XIXe siècle avaient si longtemps désappris la leur que leur musique était devenue un idiome étranger. Ce n'était que depuis peu qu'un mouvement avait commencé par parler français en France. Ils n'y réussissaient pas tous, l'habitude était bien forte, et à part quelques-uns, leur français était belge ou gardait un fumet germanique. Il était donc naturel qu'un Allemand s'y trompât et déclara, avec son assurance ordinaire, que c'était là du mauvais Allemand, qui ne signifiait rien, puisque lui n'y comprenait rien. Christophe ne s'en faisait pas faute. Les symphonies françaises lui semblaient une dialectique abstraite, où les thèmes musicaux s'opposaient ou se superposaient, à la façon d'opérations arithmétiques. Pour exprimer leur combinaison, on aurait pu aussi bien les remplacer par des chiffres ou par des lettres de l'alphabet. L'un bâtissait une œuvre sur l'épanouissement progressif d'une formule sonore qui, n'apparaissant complète que dans la dernière page de la dernière partie, restait à l'état de larve pendant les 9/10 de l'œuvre. L'autre échafaudait des variations sur un thème qui ne se montrait qu'à la fin, descendant peu à peu du compliqué au simple. C'étaient des joujoux très savants. Il fallait être à la fois très vieux et très enfant pour pouvoir s'en amuser. Cela avait coûté aux inventeurs des efforts inouïs. Ils mettaient des années à écrire une fantaisie. Ils se faisaient les cheveux blancs à chercher de nouvelles combinaisons d'accords pour exprimer, peu importe, des expressions nouvelles. Comme l'organe crée le besoin, dit-on, l'expression finit toujours par créer la pensée. L'essentiel est qu'elle soit nouvelle. Du nouveau à tout prix. Ils avaient la frayeur maladive du déjà-dit. Les meilleurs en étaient paralysés. On sentait qu'ils étaient toujours occupés à se surveiller peureusement, à effacer ce qu'ils avaient écrit, à se demander « Ah, mon Dieu, où est-ce que j'ai déjà vu cela ?» Il y a des musiciens, surtout en Allemagne, qui passent leur temps à coller bout à bout les phrases des autres. Ceux de France contrôlaient pour chacune de leurs phrases si elles ne se trouvaient pas dans leur liste de mélodies déjà employées par d'autres, et à gratter, gratter, pour changer la forme de son nez, jusqu'à ce qu'il ne ressemblât plus à aucun nez connu, ni même à aucun nez. Avec tout cela, ils ne trompaient pas Christophe. Ils avaient beau s'affubler d'un langage compliqué et mimer des emportements surhumains, des convulsions d'orchestre, ou cultiver des harmonies inorganiques, des monotonies obsédantes, des déclamations à la Sarah Bernhardt, qui partaient à côté du ton et continuaient pendant des heures à marcher comme des mulets à demi assoupis sur le bord de la pente glissante, Christophe retrouvait sous le masque de petites âmes froides et fades, outrageusement parfumées, à la façon de Gounod et de Massenet, mais avec moins de naturel. Et il se redisait le mot injuste du Gluck à propos des Français, « Laissez-les faire, ils retourneront toujours à leur pont neuf. » Seulement, il s'appliquait à les rendre très savants. Il prenait des chansons populaires pour thèmes de symphonie doctorale, comme des thèses de Sorbonne. C'était le grand jeu du jour. Tous les chants populaires de tous les pays y passaient à tour de rôle. Il faisait avec cela des 9e symphonies et des quatuors de Franck, mais beaucoup plus difficiles. L'un d'eux pensait-il une petite phrase bien claire, vite il se hâtait d'en introduire une seconde au milieu, qui ne signifiait rien, mais qui rappait cruellement contre la première. Et l'on sentait que ces pauvres gens étaient si calmes, si pondérés. Pour conduire ces œuvres, un jeune chef d'orchestre correct et hagard se démenait, foudroyait, faisait des gestes à la Michel-Ange, comme s'il s'agissait de soulever les armées de Beethoven ou de Wagner. Le public, composé de mondains qui mouraient d'ennui, mais qui pour rien au monde n'eussent renoncé à l'honneur de payer chèrement un ennui glorieux, et de petits apprentis, heureux de se prouver leur science d'école en démêlant au passage les ficelles du métier, dépensaient un enthousiasme frénétique, comme les gestes du chef d'orchestre et les clameurs de la musique. « Tu parles !» disait Christophe, car il était devenu un Parisien accompli. Mais il est plus facile de pénétrer l'argot de Paris que sa musique. Christophe jugeait, avec la passion qu'il mettait à tout, et avec l'incapacité native des Allemands à comprendre l'art français. Du moins, il était de bonne foi et ne demandait qu'à reconnaître ses erreurs si on lui prouvait qu'il s'était trompé. Aussi ne se regardait-il point comme lié par son jugement, et il laissait la porte grande ouverte aux impressions nouvelles qui pourraient le changer. Dès à présent, il ne laissait pas de reconnaître dans cette musique beaucoup de talent, un matériel intéressant, de curieuses trouvailles de rythme et d'harmonie, un assortiment d'étoffes fines, moelleuses, brillantes, un papillotage de couleurs, une dépense continuelle d'invention et d'esprit. Christophe s'en amusait, et il en faisait son profit. Tous ces petits maîtres avaient infiniment plus de liberté d'esprit que les musiciens d'Allemagne. Ils quittaient bravement la grande route et se lançaient à travers bois. Ils cherchaient à se perdre. Mais c'était de si sages petits-enfants qu'ils n'y parvenaient point. Les uns, au bout de 20 ans, retombaient sur le grand chemin. Les autres se lassaient tout de suite, s'arrêtaient n'importe où. Il y en avait qui étaient presque arrivés à des sentiers nouveaux. Mais au lieu de poursuivre, ils s'asseyaient à la lisière et musaient sous un arbre. Ce qui leur manquait le plus, c'était la volonté, la force. Ils avaient tous les dons, moins un, la vie puissante. Surtout, il semblait que cette quantité d'efforts fussent utilisés d'une façon confuse et se perdissent en route. Il était rare que ces artistes sussent prendre nettement conscience de leur nature et coordonner leurs forces avec constance en vue d'un but donné. Effet ordinaire de l'anarchie française, elle dépense des ressources énormes de talent et de bonne volonté à s'annihiler par ses incertitudes et ses contradictions. Il était presque sans exemple qu'un de leurs grands musiciens, un Berlioz, un Saint-Saëns, pour ne pas nommer les plus récents, ne se fût pas embourbé en soi-même, acharné à se détruire, renié, faute d'énergie, faute de foi, faute surtout de boussole intérieure. Christophe, avec le dédain insolent des Allemands d'alors, pensait « Les Français ne savent que se gaspiller en inventions dont ils ne font rien. Il leur faut toujours un maître d'une autre race, un Gluck ou un Napoléon, qui viennent tirer parti de leur révolution. » Et il souriait à l'idée d'un 18 Brumaire. Cependant, au milieu de l'anarchie, un groupe s'efforçait de restaurer l'ordre et la discipline dans l'esprit des artistes. Pour commencer, il avait pris un nom latin, évoquant le souvenir d'une institution cléricale qui avait fleuri il y avait 1400 ans, au temps de la grande invasion des Goths et des Vandales. Christophe était un peu surpris que l'on remontât si loin. Certes, il est bon de dominer son temps, mais on pouvait craindre qu'une tour de 14 siècles de haut ne fût un observatoire incommode, d'où il fût plus aisé de suivre les mouvements des étoiles que ceux des hommes d'aujourd'hui. Christophe se rassura vite en voyant que les fils de Saint Grégoire ne restaient que rarement sur leur tour. Ils y montaient seulement afin de sonner les cloches. Tout le reste du temps, ils le passaient à l'église d'en bas. Christophe, qui assista à quelques-uns des offices, fut un peu de temps avant de s'apercevoir qu'ils étaient du culte catholique. Il était convaincu d'abord qu'ils appartenaient au rite de quelques petites sectes protestantes. Un public prosterné, des disciples pieux, intolérants, volontiers agressifs. À leur tête, un homme très pur, très froid, volontaire et un peu enfantin, maintenant l'intégrité de la doctrine religieuse, morale et artistique, expliquant en termes abstraits l'évangile de la musique au petit peuple des élus et damnant avec tranquillité l'orgueil et l'hérésie. Il leur attribuait toutes les fautes de l'art et les vices de l'humanité. La Renaissance, la Réforme et le judaïsme actuel qu'il mettait dans le même sac. Les Juifs de la musique étaient brûlés en effigie après avoir été affublés de costumes infamants. Le colossal Händel recevait les étrivières. Seul Jean-Sébastien Bach obtenait d'être sauvé, par la grâce du Seigneur, qui reconnaissait en lui un protestant par erreur. Le temple de la rue Saint-Jacques exerçait un apostolat. On y sauvait les âmes et la musique. On enseignait méthodiquement les règles du génie. De laborieux élèves appliquaient ces recettes avec beaucoup de peine et une certitude absolue. On eût dit qu'ils voulaient racheter par leur pieuse fatigue la légèreté coupable de leur grand-père. Les Aubert, les Adam, et cet archidamné, cet âne diablotique, Berlioz, le diable en personne, diabolus in musica. Avec une louable ardeur et une piété sincère, on répandait le culte des maîtres reconnus. En une dizaine d'années, l'œuvre accomplie était considérable. La musique française en était transformée. Ce n'était pas seulement les critiques français, c'étaient les musiciens eux-mêmes qui avaient appris la musique. On voyait maintenant des compositions et jusqu'à des virtuoses qui connaissaient l'œuvre de Bach. Surtout, on avait fait un grand effort pour combattre l'esprit casanier des Français. Ces gens-là se calfeutrent chez eux. Ils ont peine à sortir. Aussi, leur musique manque d'air. Musique de chambre close, de chaises longues, musique qui ne marche pas. Tout le contraire de Beethoven, composant à travers les champs, dégringolant les pentes, marchant à grandes enjambées sous le soleil et la pluie, et effrayant les troupeaux par ses gestes et par ses cris. Il n'y avait pas de danger que les musiciens de Paris dérangeassent leurs voisins par le fracas de leur inspiration, comme l'ours de Bonne. Ils mettaient, quand ils composaient, une sourdine à leurs pensées, et des tentures empêchaient les bruits du dehors d'arriver jusqu'à eux. La Scola avait tâché de renouveler l'air. Elle avait ouvert les fenêtres sur le passé seulement. C'était les ouvrir sur la cour et non pas sur la rue. Cela ne servait pas à grand-chose. À peine la fenêtre ouverte, ils repoussaient le battant comme de vieilles dames qui ont peur de s'enrhumer. Il entrait par là quelques bouffées du Moyen-Âge, de Bach, de Palestrina, de chansons populaires. Mais qu'était-ce que cela? La chambre n'en continuait pas moins de sentir le renfermé. Au fond, il s'y trouvait bien. Il se méfiait des grands courants modernes. Et s'il connaissait plus de choses que les autres, il niait aussi plus de choses. La musique prenait dans ce milieu un caractère doctrinal. Ce n'était pas un délassement. Les concerts devenaient des leçons d'histoire ou des exemples d'édification. On académisait les pensées avancées. Le grand Bach, torrentueux, était reçu, assagi dans le giron de l'église. Sa musique subissait dans le cerveau scolastique une transformation analogue à celle de la Bible furibonde et sensuelle dans les cerveaux d'anglais. La doctrine qu'on prenait était un éclectisme aristocratique qui s'efforçait d'unir les caractères distinctifs de trois ou quatre grandes époques musicales du VIe au XXe siècle. S'il avait été possible de la réaliser, on eût obtenu en musique l'équivalent de ces constructions hybrides élevées par un vice-roi des Indes au retour de ses voyages, avec des matériaux précieux ramassés à tous les coins du globe. Mais le bon sens français les sauvait des excès de cette barbarie érudite. Ils se gardaient bien d'appliquer leurs théories. Ils agissaient avec elles comme Molière avec ses médecins. Ils prenaient l'ordonnance et ils ne la suivaient pas. Les plus forts allaient leur chemin. Le reste du troupeau s'en tenait dans la pratique à des exercices savants de contrepoint fort durs. On les nommait sonates, quatuors et symphonies. Sonate, que me veux-tu ? Elle ne voulait rien du tout qu'être une sonate. La pensée en était abstraite et anonyme, appliquée sans joie. C'était un art de parfait notaire. Christophe, qui avait d'abord su gré aux Français de ne pas aimer Brahms, se disait à présent qu'il y avait beaucoup de petits Brahms en France. Tous ces bons ouvriers, laborieux, consciencieux, étaient pleins de vertus. Christophe sortit de leur compagnie, extrêmement édifié, mais pénétré d'ennui. C'était très bien, très bien. Qu'il faisait beau dehors.